Soir Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 18h30, temps universel. Nous sommes vendredi 17 novembre 2017 au sommaire. Situation toujours confuse au Zimbabwe. Le président Mugabe apparaît en public alors que le chef des anciens combattants lui demande de partir.
Aujourd'hui, on a eu une réunion de l'association des vétérans de la guerre qui veulent appuyer l'initiative des militaires pour faciliter une transition, mais qui comprend essentiellement la démission de Mugabe.
Au Kenya, 3 morts dans une manifestation interdite de l'opposition. Au Cameroun, un violent incendie a ravagé une partie des bâtiments de l'Assemblée nationale à Yaoundé. La Mauritanie qui durcit sa loi sur l'apostasie et le blasphème. À Washington, le département d'État accueille une réunion avec une trentaine de ministres africains pour parler de commerce, de bonne gouvernance et de sécurité. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Nouveau coup de théâtre à Harare ce vendredi matin. Le président Robert Mugabe a fait sa première apparition publique depuis le coup de force de l'armée. On fait le point avec Raissa Girondin.
C'est la première apparition de Robert Mugabe depuis une intervention militaire inédite. Il s'est rendu à une université pour assister à une remise de diplôme à Harare. Le président zimbabwéen, que l'on pensait en résidence surveillée, est apparu libre sous les acclamations de la foule. Après le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, l'armée est intervenue il y a à peine 3 jours en précisant qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Mugabe a été placé en résidence surveillée dans sa maison en banlieue de Harare. Hier, il a pu se rendre à la présidence pour recevoir le chef de l'armée et les émissaires de la SADC. Il a refusé de démissionner et une négociation est en cours pour une transition en douceur. Le Guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé un coup d'État et exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara affirme que M. Mugabe devrait quitter ses fonctions dans la dignité et qu'il est temps pour lui de partir et céder la place à la nouvelle génération.
Et au chapitre des réactions, on écoute le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. C'était ce matin à l'ouverture d'une réunion avec des ministres africains à Washington.
Je sais que nous suivons tous de très près les événements au Zimbabwe et ce sont des préoccupations pour vous tous, ce sont des préoccupations pour nous aussi. Nous devons tous travailler ensemble pour que le gouvernement civil revienne au pouvoir dans ce pays. Bien sûr, en conformité avec la Constitution, le Zimbabwe a une possibilité maintenant de se tracer une nouvelle voie basée sur des élections démocratiques et le respect des droits de l'homme. En fin de compte, c'est le peuple du Zimbabwe qui doit décider de son gouvernement. Lors de nos discussions aujourd'hui, nous aurons une possibilité de discuter de modalités concrètes qui nous permettraient de les aider à opérer cette transition.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson avec l'interprète. Nous reviendrons sur cette situation au Zimbabwe dans la partie magazine de cette édition. Au Kenya, au moins 3 personnes ont été tuées aujourd'hui par balles. La police a violemment réprimé une manifestation interdite de l'opposition à Nairobi. Solange Nyamulisa.
3 jeunes manifestants ont été tués par balles, tous touchés au niveau du torse, en 3 lieux différents, dont le quartier de Muturwa, près du centre des affaires de Nairobi. Des milliers de partisans de l'opposition sont descendus dans les rues pour saluer le retour de Raila Odinga après 10 jours aux États-Unis. Après l'accueil à l'aéroport, l'opposition avait prévu un rassemblement en centre-ville. Elle a été interdite par les autorités et a été très vite dispersée par la police. M. Odinga s'est brièvement adressé à la foule, affirmant que ses militants ont vu le signal qu'une troisième libération va bientôt arriver. Les opposants veulent mobiliser la population pour obtenir l'annulation de la présidentielle du 26 octobre qu'elle a boycottée et l'organisation d'une nouvelle élection. La Cour suprême, qui avait annulé le premier tour, rendra son verdict lundi.
L'ONU s'est dit particulièrement préoccupée par la recrudescence des violences dans l'ouest anglophone du Cameroun et a rappelé son attachement à l'intégrité territoriale et à l'unité du Cameroun. Dans un communiqué, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale dit suivre avec une grande attention la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Toujours au Cameroun, 5 étages du bloc administratif de l'Assemblée nationale à Yaoundé ont volé hier nuit en fumée dans un gigantesque incendie. L'origine est accidentelle selon les autorités qui ont néanmoins ouvert une enquête. Les dégâts matériels sont importants. Emmanuel Jultap depuis Yaoundé était sur place ce matin.
Ce vendredi matin, Joseph Banadem, député du Social Democratic Front, SDF, constate qu'il n'a plus de bureau au quatrième étage du bloc administratif de l'Assemblée nationale. Mais le député de l'opposition déplore plus encore.
Toute la documentation du SDF à l'Assemblée depuis 22 ans est consommée.
Le cabinet du vice-président de l'Assemblée nationale a été également réduit en cendres, tout comme le bureau du député Gaston Koumba, parlementaire RDPC, parti au pouvoir.
Mon bureau à la Commission des finances était au 7e étage et tout est parti.
La mythique salle de la Commission des finances du budget, où se déroulait depuis des années la défense des projets de budget, a été calcinée. Grégoire Owuna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, cache à peine sa tristesse.
C'est très dommage de voir ce lieu que je qualifierais historique dans cet état.
Certes, l'hémicycle de l'Assemblée nationale a été épargné, mais les députés n'ont pu siéger ce vendredi, probablement dès lundi prochain. Yaoundé, Emmanuel Jemtap, VOA Afrique.
Au Sénégal, un violent incendie a ravagé un vaste secteur d'un quartier de Pikine, une ville de la banlieue nord de Dakar. Les pompiers ont pu maîtriser les flammes après plusieurs heures. L'incendie a causé d'importants dégâts sur les lignes à haute tension, privant d'électricité une grande partie de la capitale sénégalaise. L'incendie a démarré très tôt ce matin, vers 4 heures locales, dans le parc Lambay, une zone dédiée au stockage de bois et de meubles. Les flammes se sont propagés rapidement dans le reste du secteur. Au Mali, le président d'un tribunal d'instance de la localité de Niono, dans le centre du pays, a été enlevé par des hommes armés dans la nuit d'hier. L'incendie intervient 2 semaines après une embuscade ayant visé un haut magistrat. Le 31 octobre, le député et président de la Haute Cour de justice du Mali, Abdelrahman Niang, a échappé à une embuscade visant son convoi dans la région voisine de Mopti. Mais son chauffeur et 5 soldats ont été tués. Le gouvernement mauritanien a adopté un projet de loi durcissant la législation contre les auteurs d'apostasie et de blasphème. Ils seront désormais passibles de la peine de mort. Le 9 novembre, un Mauritanien détenu depuis près de 4 ans pour un billet de blog jugé blasphématoire avait vu sa condamnation à mort convertie en une peine de prison de 2 ans. La décision de la Cour d'appel de Ouagadougou, dans le nord-ouest du pays, saluée notamment par Amnesty International, avait provoqué un tollé en Mauritanie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Italie a rendu un hommage sobre aux 26 jeunes migrantes mortes noyées il y a 15 jours au large de la Libye. C'était en présence d'un évêque, d'un imam, mais il n'y a pas eu de ministre. Au milieu du grand cimetière sur les hauts de la Salerne, au sud de Naples, 26 cercueils sont alignés sous un franc soleil balayé d'un vent froid. Plus de 60 autres migrants sont morts en même temps, mais l'océan a gardé les corps. L'ex-premier ministre libanais Saad Hariri devait quitter ce vendredi Riyad pour Paris, mais la crise reste entière 2 semaines après sa démission surprise. Le président français Emmanuel Macron le recevra demain à l'Élysée. Il n'était pas clair combien de temps il resterait en France. Ancienne puissance mandataire du Liban, la France a joué les médiateurs et M. Macron a invité à Paris M. Hariri et sa famille pour quelques jours afin de sortir de l'impasse née de sa démission surprise annoncée le 4 novembre à Riyad. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a présenté ses excuses à la Turquie à la suite d'un incident lors d'un exercice en Norvège durant lequel le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme avoir été dépeint comme un ennemi. Je présente mes excuses pour l'offense causée. Les incidents ont été le résultat des actions d'un individu et ne reflètent pas les opinions de l'OTAN, a expliqué M. Stoltenberg dans une déclaration écrite. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé hier qu'il avait retiré les militaires turcs participant à cet exercice basé sur des simulations par ordinateur, affirmant qu'il y avait été présenté comme un ennemi. Un ministre ultra-orthodoxe israélien menace de démissionner si le gouvernement n'empêche pas la tenue de travaux d'entretien prévus sur les lignes de train le samedi, jour du Shabbat, repos hebdomadaire pour les Juifs. Une démission qui pourrait provoquer une crise au sein de la coalition majoritaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Le gouvernement gambien veut restructurer sa lourde dette. Selon le ministre des Finances Amadou Sané, la dette gambienne représente actuellement 120% du PIB et nécessite une restructuration pour permettre au pays d'avoir une marge de manœuvre pour lancer un plan de développement. Toujours selon M. Sané, son gouvernement a hérité du régime précédent de Yahya Jammeh d'une dette évaluée à 1 milliard de dollars. Le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, a présenté un plan de développement de 2,4 millions de dollars pour les années 2018 à 2021 qui seront investis dans l'énergie, les infrastructures et l'agriculture. La Guinée lève 20 milliards de dollars d'engagement pour financer son développement. Le plan quinquennal a été présenté au cours d'une rencontre à Paris avec les partenaires publics et privés de la Guinée. Nous voulons montrer qu'il y a une nouvelle Guinée. Les progrès qui ont été faits sont très mal connus, avait lancé Alpha Condé à l'ouverture de la réunion. Malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, or, diamants et minerais de fer, selon l'ONU, plus de la moitié de la population guinéenne vit sous le seuil de la pauvreté, avec moins d'un euro par jour. Deux Airbus A330neo pour Air Sénégal. La compagnie nationale de transport aérien a signé jeudi à Dubaï un protocole d'accord portant sur deux A330neo, la nouvelle version du gros porteur best-seller A330. Avec cet accord, Air Sénégal devient la première compagnie africaine à sélectionner ce type d'appareil.
La page des sports avec Nicolas Pino. Nicolas, bonsoir.
Et bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
L'Égyptien Amr Fahmy, nommé secrétaire général de la CAF.
Et oui, la Confédération africaine de football annonce la nomination d'Amr Fahmy au poste de secrétaire général de l'instance. Il succède ainsi à Hicham El Amrani, le Marocain. Il succède surtout à son père, Mustapha Fahmy, qui était secrétaire général de la CAF entre 82 et 2010. Il succède même à son grand-père, qui était le secrétaire général de la CAF entre 1961 et 1982. C'est une affaire de famille. À noter que le jeune dirigeant sera entouré par deux adjoints, en l'occurrence l'ancien international ghanéen, Tony Bafo, chargé du développement et des compétitions, et le Marocain Essadi Kalaoui, chargé de l'administration et des finances.
Les qualifications de la CAN 2019 repoussées de mars à octobre 2018.
La Confédération africaine de football a accepté de déplacer les qualifications de la CAN 2019 de mars à octobre 2018 pour permettre aux 5 équipes du continent qualifiées pour le Mondial en Russie de disputer des matchs amicaux de préparation à cette période. On rappelle que pour le Mondial 2018, l'Afrique sera défendue par le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc.
Pogba de retour avec Manchester.
Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic et Marcos Rojo, absents de longue date, sont prêts pour jouer demain contre Newcastle lors de la 12e journée de la Première Ligue. C'est ce qu'annonce José Mourinho, l'entraîneur des Red Devils. Le milieu de terrain français de 24 ans, touché aux ischio-jambiers, n'avait plus joué depuis sa sortie à la 18e minute du match de la première journée de la Ligue des Champions contre le FC Bâle. C'était le 12 septembre dernier. Quant à Ibrahimovic, Zlatan, l'attaquant suédois de 36 ans, n'a plus foulé les terrains depuis avril dernier, lorsqu'il s'était rompu les ligaments croisés du genou droit.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Boston a renversé Golden State dans le duel au sommet de la NBA et signé sa 14e victoire de suite, 92-88, tandis que la star de Houston, James Harden, a submergé Phoenix, 142-116 la victoire, grâce à 48 points de Harden.
Merci Nicolas. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le point sur la situation au Zimbabwe à présent. Le président Robert Mugabe, qui refuse de démissionner, a fait une apparition publique ce matin. De leur côté, les anciens combattants lui demandent de partir. Anastasie Toudiech a joint à Harare John Stewart. Il est le directeur d'une ONG de lutte pour les droits de l'homme.
La situation du pays est assez normale, à part la situation politique. Et aujourd'hui, on a eu une réunion de l'Association des vétérans de la guerre qui veulent appuyer l'initiative militaire, faciliter une transition, mais qui comprend essentiellement la démission de Mugabe. Il semble que ça va s'ajouter cette démarche des militaires qui, comme disent les militaires, met un coup d'État, mais c'est une transition aidée par les militaires, en fait un projet national démocratique.
Sait-on où est Grace Mugabe?
Grace Mugabe est toujours dans le pays, mais elle n'a pas eu on ne l'a pas vu en public depuis que l'armée est arrivée au pouvoir, en fait, qui a pris contrôle au moins de la situation dans les heures de mercredi matin. Monsieur Mugabe, aujourd'hui, a été permis par les militaires de présider à une séance à l'Université de Zimbabwe pour confier, en fait, qu'est-ce qu'on dit, les baccalauréats aux étudiants. C'était prévu depuis un certain temps et il semble que les militaires ont permis à Mugabe de remplir ses fonctions pour montrer, surtout à l'extérieur, au SADC et à l'Union africaine, que Mugabe était toujours président pour le moment et que les discussions qui touchent à son avenir sont toujours en train de se faire.
Quel avenir pour Monsieur
Mnangagwa? Entre autres, il y a des discussions entre, il semble, Mnangagwa, qui serait probablement un des chefs de la ZANU dans les jours qui viennent, avec les leaders des partis de l'opposition, des leaders tels que Morgan Tsvangirai du mouvement de changement démocratique. Et donc, il y a la possibilité qu'on va aller vers une autorité nationale de transition. Ça, c'est une deuxième étape. La première étape sera de résoudre la question de, en fait, la démarche dans le ZANU.
C'était John Stewart, directeur de l'ONG de lutte pour les droits de l'homme Novask.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, le directeur de publication du journal Le Visionnaire, arrêté fin octobre dernier, a finalement été relaxé et remis en liberté cette semaine. Judas Alaoudoum avait été arrêté à la suite d'une plainte du parquet pour la parution d'un article en une consacré à une affaire d'immatriculation d'avion qui défrayait la chronique à N'Djamena. John Lyndon a joint sur place notre confrère Judas Alaoudoum qui vient de sortir de prison.
J'ai été arrêté le 17 octobre 2017 pour, disons, entrave à une enquête judiciaire qui concerne donc l'immatriculation de l'avion Airbus au nord du Tchad et qui se retrouverait en Syrie, en zone interdite, en train, disons, de servir les terroristes.
Que révèle cette enquête sur laquelle vous avez travaillé?
Cette enquête sur laquelle nous avons travaillé, disons, il y a un avion qui serait immatriculé au Tchad au nom de la compagnie Air Inter One dirigée par un certain Mathias Tarsi. Et donc, cet avion immatriculé au Tchad se retrouverait en zone interdite en Syrie en train de servir les terroristes. Et ce qui a créé un peu, disons, des démêlés entre la République du Tchad et les États-Unis, ce qui donc serait à l'origine de la mise du cadre sur la liste noire des États-Unis, selon plusieurs sources, que cette enquête diligentée par le parquet viserait à savoir la vérité sur cette affaire. Et nous avons également, dans cet article mené des investigations, nous avons mis en cause un certain nombre de personnalités du pays, surtout que les responsables en charge de l'aviation civile ont été limogés à la suite, disons, de cette affaire. Et donc, nous avons mis en cause ces personnes dans l'article. Donc, voilà un peu ce qui était dans l'article. Et nous avons fait un commentaire sur les faits pour un peu dire que le Tchad ne devrait pas, disons, cautionner un tel fait si c'est une affaire de presse dans notre pays.
Est-ce que vous craignez d'être arrêté à nouveau?
Oui, il faut craindre parce que l'épée de Damoclès pèse sur la tête de tout journaliste qui essaye de frimer davantage sur la gestion du pays avec une critique. Avec une critique, tout journaliste qui essaie de frimer là, l'épée de Damoclès pèse sur sa tête. Il va donc falloir tirer la sonnette d'alarme, ce qui fait que beaucoup de journalistes, peut-être en ce moment, évitent à s'aventurer sur ce chemin. Mais puisque lorsqu'on s'engage pour ce métier, je pense qu'on est obligé d'aller quelquefois jusqu'au bout.
C'était Judas Alaoudoum, directeur de publication du Visionnaire à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
37 ministres africains des Affaires étrangères réunis aujourd'hui à Washington. Un extrait du discours d'ouverture de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, devant ses homologues africains.
Notre but aujourd'hui est d'élargir et d'enrichir la relation des États-Unis avec l'Afrique sur trois fronts, la promotion du commerce et de l'investissement, l'encouragement de la bonne gouvernance et la lutte contre le terrorisme. Le commerce et l'investissement des États-Unis et les pays d'Afrique est en croissance. Les exportations américaines vers les pays d'Afrique subsaharienne sont passées de 17 milliards de dollars en 2010 à hauteur de plus de 25 milliards de dollars en 2014. Et l'année passée, les investissements directs américains aux États-Unis sont passés à 57,5 milliards de dollars, le plus haut chiffre de toute l'histoire. Et les États-Unis voient encore plus d'opportunités au cours des années à venir. L'Afrique est un marché croissant. 5 des 10 économies en plus forte croissance du monde sont en Afrique. La dépense des consommateurs devrait dépasser 2,1 milliards de dollars d'ici 2025. D'ici 2030, l'Afrique devrait représenter environ un quart de la main-d'œuvre mondiale et des consommateurs du monde, avec une population de plus de 1,7 milliard. D'ici 2050, la population du continent devrait doubler à hauteur de 2,4 milliards d'habitants, avec 70% de la population en dessous de l'âge de 30 ans. Le défi consiste à préparer l'Afrique avec une bonne éducation pour sa main-d'œuvre et pour préparer le pays, le continent, pour cet avenir. Grâce à Power Africa, par exemple, les États-Unis et ses partenaires ont aidé le secteur privé à créer 82 usines d'électricité en Afrique subsaharienne. Mais la croissance économique et la prospérité durable ne peuvent se développer que lors de bonne gouvernance. Et comment cela améliore globalement la sécurité?
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est sur le programme de la journée de cette journée africaine au département d'État. Idriss Fall a joint Brian Newbert, porte-parole du département d'État pour l'Afrique, et il revient ici sur les 60 millions de dollars promis à la force du G5 Sahel.
Pour la stabilité, il faut de la bonne gouvernance, l'état du droit, il faut l'investissement, il faut développement économique. Donc, là, les 60 millions, c'est essentiel, c'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres investissements dont les États-Unis également participent dans ces autres domaines de gouvernance et de la prospérité. On imagine même que cette urgence, ça va être un projet de long terme dans la région de Sahel.
Et la réunion, il y aura une photo de groupe, elle se termine quand?
Ça va se terminer cet après-midi vers 15 heures. Et après, il y aura une réception USIP, US Institute of Peace, pour donner une opportunité pour les délégations africaines se circuler avec quelques membres du secteur privé et de la société civile et d'autres VIP pendant qu'ils soient à Washington.
C'était Brian Newbert, porte-parole du département d'État pour l'Afrique. Le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Mais le saint manuscrit a été interprété de différentes manières par différentes religions. À Washington, le nouveau musée de la Bible, financé par des fonds privés, ouvre ses portes au public samedi. Situé près du Capitole, il présente des expositions interactives et des Bibles datant de plusieurs siècles. Mais il alimente la controverse. Un reportage de Deborah Block, relaté ici par Nathalie Barche.
Sans surprise, le musée de la Bible contient de nombreuses Bibles différentes, des chansons sur la Bible, des textes en hébreu, même des dessins de mode contemporains avec des thèmes bibliques. La Bible est importante car elle aide les gens à cheminer dans la vie, explique Tony Zeiss, directeur exécutif du musée.
Il y a beaucoup à apprendre, nous nous concentrons donc sur son histoire, son récit et son impact. Nous aimerions que le visiteur s'engage personnellement, s'impliquer davantage dans ce livre incroyable.
Plus de 100 érudits qui représentent différents points de vue ont conçu les expositions réparties sur plusieurs étages dans le grand bâtiment. Il y a des affichages interactifs pour éduquer tout en divertissant, même dans les ascenseurs. Et vous pouvez vous promener à travers une reconstitution de Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Le directeur technique Seth Pollinger explique.
Tout a été étudié pour qu'au cours de la visite, vous puissiez vous retrouver dans les lieux comme il y a 2000 ans.
Le musée a été fondé par Steve Green, de la famille chrétienne évangélique conservatrice, qui possède Hobby Lobby, le plus grand détaillant d'art et d'artisanat privé au monde. Steve Green, le fondateur du musée de la Bible.
Il serait difficile pour nous, en tant que famille, d'essayer de cacher ce que nous croyons. Nous croyons que ce livre est ce qu'il prétend être. Mais notre rôle ici est de présenter les faits de la Bible à travers un regard plutôt journalistique.
Mais c'est discutable selon John Fay, professeur d'histoire au Collège du Messie, qui se considère comme un évangéliste libéral. Jacques Berlinerbro, directeur du programme de civilisation juive à l'université Georgetown, pense que le musée a un agenda caché.
L'idée que le musée n'a pas l'intention de convertir les gens à une lecture particulière de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Écriture, est absurde.
Un point de vue partagé par le professeur John Fay.
Même s'ils veulent rester neutres et objectifs, il sera très difficile de présenter la Bible de cette manière, car elle est toujours vraiment ancrée dans une tradition religieuse particulière et leur façon de l'interpréter. Il est difficile de voir cela autrement qu'une tentative d'amener les valeurs chrétiennes, les enseignements bibliques compris par les protestants évangéliques comme les Green, au centre de la vie politique et culturelle des États-Unis.
Le musée contient d'impressionnants artefacts anciens dont certains ont été sortis clandestinement d'Irak et achetés par la famille. Les Greens sont payés une amende de 3 millions de dollars et Richard Green, cofondateur, a dit à la Voix de l'Amérique que le musée était prêt à les retourner dans leur pays d'origine. Quoi qu'il en soit, les responsables du musée encouragent les gens à venir le visiter et à décider eux-mêmes ce qu'ils en pensent.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami. À la console, Dan Crafton. Présentation, Abdulrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur notre page Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.